Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés pour venir d'un même cœur te remercier, de permettre qu'on soit ici ce matin pour venir se rassembler entre frères et sœurs, pour venir te louanger, t'adorer, te glorifier dans les chants, mais aussi pour entendre ta parole, Seigneur. Je demande de continuer à parler à nos cœurs par ta parole, de nous faire grandir spirituellement, qu'on devienne solide en toi, qu'on puisse marcher par la foi dans ce monde, puis qu'on puisse faire l'œuvre à laquelle que tu nous appelles. On remet nos ventres entre tes mains, bénis cette réunion dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Je suis en train de continuer l'étude que j'ai commencée il y a plusieurs semaines antérieurement sur le combat spirituel. Il est important, frères et sœurs, qu'on réalise notre position en Jésus. Si on est ignorant de la parole de Dieu, puis ignorant de tout ce qui est écrit comme œuvre que Jésus a faite, puis moyen que Jésus a donné pour qu'on marche dans la victoire, si on est ignorant de toutes ces choses-là, on ne peut grandir. On va rester comme au même niveau, on va se faire attaquer sur tous les bords, tous les côtés, sans la victoire, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, à cause de cet état-là, il y en a qui ont abandonné, qui ont retourné dans leur ancienne vie. Il faut réaliser que nous sommes en guerre présentement. Ah, mais vous me dites, tout est beau, tout est paisible partout, on est dans un pays libre. Non, non, mais c'est vrai que, humainement parlant, on est quand même d'un pays libre. Bon, ça paraît pas qu'on est en guerre. On n'est pas comme en Iran, puis en Irak, puis en Israël, que des bombes qui revolent à tous les jours. On est dans un pays libre. Mais spirituellement, dans le monde invisible, il y a une guerre qui se déroule présentement pour empêcher les gens de venir à Jésus. Puis ceux qui sont venus à Jésus, ils essayent de se faire sortir, ils essayent de les faire abandonner par toutes sortes d'épreuves, des oppressions, des tribulations. Quand que ça va mal dans votre vie, posez-vous pas 50 questions, vous êtes attaqués. La Bible, elle dit, c'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre les humains qu'on a à se battre, c'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, les démons, le diable, toute la panoplie du monde, le monde des ténèbres, agit continuellement sur l'humanité au complet. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu v'là 2000 ans. Après ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a reçu quand on est venu à Jésus. On a reçu plein de choses, mais si on ne les comprend pas, on ne sera pas capable de combattre efficacement pour marcher dans la victoire. On a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on doit proclamer. Ces choses-là vont nous donner de la victoire. On continue l'étude, la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai commencé à expliquer notre nouvelle position en Jésus. Jésus a tout accompli pour qu'on soit sauvé puis qu'on marche dans la victoire jusqu'à la fin. Déjà, on est des êtres ressuscités. Ça, j'ai parlé de ça la dernière fois. On est ressuscités. On est aussi morts. Spirituellement parlant, devant Dieu, physiquement parlant, on est mort, enseveli avec Jésus. On est ressuscité en nouveauté de vie. À cause de cette position-là qu'on a, on n'est plus sous la malédiction de la loi, la malédiction d'Adam et Ève, on n'est plus sous dans l'emprise du diable qui nous capture parce qu'on est dans le péché, parce que Jésus a payé la dette de nos péchés, il a vaincu la mort, il a vaincu les puissances de l'ennemi, il a arraché les armes dans lesquelles que l'ennemi se confiait, c'est le péché, pour essayer de nous écraser. On marche dans une nouveauté de vie, on est régi par de nouvelles lois spirituelles qui n'est pas la loi de l'ancien de Moïse. C'est une nouvelle loi, la loi de Christ qui régit notre vie, puis à cause de cette nouvelle loi-là, c'est une loi de liberté, une loi de victoire. Tout est accompli par Jésus pour qu'on soit dans la victoire.
Amen.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a d'autres choses qu'on doit comprendre dans toute notre nouvelle position. J'en ai déjà parlé dans certaines prêches, mais moi, je crois qu'il faut toujours, toujours se rappeler ces choses. Moi, ça fait un mois et demi, deux mois, peut-être trois mois que j'ai parlé de l'ancienne prêche sur ce sujet-là. Quand je relis mes notes, ça me bénit. Parce que c'est comme tu te renouvelles dans la pensée. Des fois, on est tellement occupé par les choses de ce monde qu'on oublie des affaires. On apprend de nouvelles, mais on oublie de certaines. Puis il est bon de toujours se rappeler ces choses. Pierre, il dit, car cela est salutaire pour vous. Puis Pierre, il avait dit ça à cette église-là, il dit, j'ai tout fait pour que vous ayez soin de vous rappeler ces choses. Il a écrit des lettres à ces églises-là pour les envoyer. Rappelez-vous de ça, pensez à ça, puis agissez comme ça. Puis Paul n'a écrit, puis aujourd'hui, on a toutes ces lettres-là dans le Nouveau Testament. Ces lettres-là sont là pour nous rappeler ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on a en Jésus-Christ dans notre nouvel héritage. Le point que je vais vous parler aujourd'hui pour vous parler d'un autre aspect de notre nouvelle position en Jésus, c'est que nous sommes changés de camp. Dans Actes 26-18, pour ceux qui ont lu la Bible, puis pour ceux qui ne l'ont pas, ils ont juste à écouter.
Il était...
Hein?
Ou de prendre l'habitude de
l'emmener. Oui, puis prenez l'habitude de l'emmener. Gloire à Dieu. Actes 26, 18. Là, on voit une parole que c'est Dieu qui parle. Puis là, il est en train de donner une mission à l'apôtre Paul. Il dit, je t'envoie afin. Puis ça, là, il faut comprendre que toutes ces choses-là, ça s'est accompli pour tous les croyants. Acte 26, 18 nous dit, « Afin que tu leur ouvres les yeux. » Paul, il a été envoyé afin d'ouvrir les yeux à tout le monde. Puis, gloire à Dieu, grâce aux écrits de Paul, grâce aux écrits de Pierre, de Jean, puis des écrits de Jacques, puis les écrits des évangélistes, là, des ceux qui ont un Matthieu, Marc, Luc et Jean, nos yeux s'ouvrent. On comprend de plus en plus ce qu'il y en est du monde invisible puis du plan de Dieu dans tout ça. On voit le plan humain, mais le monde invisible, le plan dans le monde invisible, on l'apprend à force de lire. Paul avait été envoyé afin d'ouvrir les yeux. Puis une fois que les yeux se rouvrent, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe quand l'Évangile est prêché? Quand la bonne nouvelle, l'enseignement de la parole de Dieu dans la nouvelle alliance que Dieu a faite avec Jésus, quand tu annonces ce message-là, puis Paul y est envoyé afin qu'il leur ouvre les yeux. Chaque fois qu'on entend la parole de Dieu. Chaque fois qu'on prend conscience des versets, nos yeux sont en train de s'ouvrir de plus en plus grands. On réalise des choses, parce qu'on ne parle pas juste de nos yeux, de nos pupilles qui se rouvrent, là, nos millions maximum. Mais notre compréhension, qui sont les yeux de notre compréhension, ils s'agrandissent de plus en plus à mesure qu'on apprend à connaître la parole. Puis à un moment donné, on maîtrise les sujets de toutes les révélations de Dieu qu'il a à nous montrer. Je ne te dis pas qu'on va tout connaître, on ne peut pas tout connaître. Il y a plein de choses qu'on ne connaîtra pas. Mais il y en a un bon paquet qu'on peut connaître, qu'on peut être averti, qu'on peut comprendre, puis qu'on peut se servir. Parce que les choses, pas juste des savoirs, il faut s'en servir de ce qu'on sait pour avoir les victoires. Y a-t-il un amen à cela? Puis quand tu vas entendre parler de la parole de Dieu qui est annoncée, il se passe un miracle dans la personne qui le reçoit, ce message-là. Dieu, dans sa puissance, il a prévu que quand le message est annoncé, puis que les gens le reçoivent, c'est fort, là. Les gens sont automatiquement, en le recevant, ce message-là, quand ils le reçoivent avec la foi, ils sont instantanément arrachés du monde des ténèbres, des griffes de Satan, de l'emprise du mal puis de tous les démons, puis il est arraché des ténèbres, puis il est transporté dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu, par la foi, en recevant ce qui est annoncé, de ce qui est annoncé par Jésus puis par les apôtres. Tu es une personne arraché des ténèbres, c'est Dieu lui-même qui te prend puis dit, viens ici, tu m'appartiens à cette heure, je t'emmène dans mon royaume. Hey, c'est fort. La Bible a dit dans 1 Jean 5,19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Présentement, dans le monde, là, les gens s'en rendent pas compte. Ils vivent leur vie, ils vont travailler le matin, ils mangent, ils dorment, ils marient leurs enfants, sans savoir qu'ils sont capturés. Ils sont des esclaves du monde des ténèbres. Ils sont captifs de leurs péchés, puis ils s'en vont dans une seule direction, vers l'étang de feu pour l'éternité. C'est grave. L'heure est grave. Il y a un seul moyen de sortir de cette position-là, puis d'être sauvé. Quand on parle d'être sauvé, c'est pas juste être pardonné, c'est de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'être changé des ténèbres, être transporté dans le royaume de Dieu. Vive une nouvelle vie qui est en Jésus. Plein de choses qui s'obtiennent à partir du moment que tu reçois par la foi, que tu crois ce qui t'est annoncé. Ça, c'est une nouvelle position d'être un déraciné des ténèbres puis enraciné dans le royaume de Dieu, d'être un transporté. C'est une nouvelle position que t'as, que tu reçois lorsque tu te convertis. C'est pas que tu as quelque chose que tu reçois 20 ans après que tu aies accepté Jésus. C'est quelque chose que tu reçois instantanément à ta nouvelle naissance. La Bible est claire là-dessus. Dans Jean 3, on va aller lire ce passage-là, Jean, l'Évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 3. Il faut comprendre ces vérités-là. Puis quand tu comprends ces vérités-là, là, ça te situe, dis, hey, je fais partie de ceux qui sont dans le royaume de Dieu, qui marchent dans la lumière. Parce que t'es transporté des ténèbres à la lumière. T'as une nouvelle position. Jean 3:3, on va commencer à lire. Jésus répondit, on en parle souvent de ce passage-là, mais moi je dis, tant qu'on ne l'a pas compris dans tout l'ensemble puis la portée, faut répéter cela tout le temps. Jésus lui répondit à Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui connaissait la loi de Moïse, puis est instruit des enseignements des Juifs, mais il ne savait pas les choses de base, comment être sauvé. Jésus est en train d'y expliquer de ce qui se passe. Il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, Nicodème lui dit, comment qu'un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître, comme s'il revient dans le corps de sa mère pour revenir au monde? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ici, je vais vous parler de votre deuxième naissance. La première naissance, c'est quand vous êtes nés au monde, dans la chair, vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous étiez dans l'eau, dans le ventre de votre mère. La mère perd ses os, puis après ça, t'accouches. T'es né d'eau. Tu rentres dans ce monde comme étant ce qui est né de la chair est chair. Mais il est important de comprendre qu'un homme, s'il veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse une deuxième fois, mais là, il faut qu'il naisse de l'esprit. Ça n'a pas rapport de la naissance d'eau. Naître d'eau, venir au monde, c'est un aspect, t'es un vivant. Mais naître de l'esprit, c'est de recevoir cet esprit-là, qui n'est pas n'importe quel esprit en passant. C'est le Saint-Esprit de Dieu envoyé à tous ceux qui ont mis leur foi en l'œuvre accomplie de Jésus. Dans ces versets-là, ça nous dit, si tu n'es pas de nouveau, il appelle ça nouvelle naissance. C'est comme si tu renais, tu repars à zéro. Dans ta vie, là, tu as marché, tu es né au monde dans ta chair, tu as marché pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y en a qui sont convertis à 70 ans. Ils ont marché dans leur chair pendant Tant qu'ils n'ont pas entendu parler du message que Jésus veut te sauver, Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé, repens-toi, viens à Jésus. La minute que la personne reçoit ce message-là par la foi, elle naît de nouveau. Il y a un nouveau départ qui se commence, une nouvelle vie qui commence. Cette personne-là naît de l'Esprit, puis tu es rendu une nouvelle créature. À partir de ce moment-là, tes yeux voient. Il dit là, tu peux voir le royaume. Ça dit aussi que tu peux entrer dans ce royaume-là. Sans cette nouvelle naissance-là, tu ne pouvais même pas la voir, le royaume de Dieu. Tu ne pouvais pas le voir ni y entrer. C'est pour ça que Dieu a dit à Paul, tu vas aller, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils voient. Et comment est-ce qu'ils pouvaient voir tout ça? C'est en voyant ce que Jésus a fait. Là, les gens le reçoivent, puis là, ils sont transportés des ténèbres dans la lumière. C'est là qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ton entrée dans le royaume n'était pas avant que tu naisses. Ton entrée dans le royaume n'était pas à un mois, ou dans le ventre de ta mère, ou à ta sortie. Ton entrée dans le royaume se fait quand tu nais de l'Esprit. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'à quelque part, tu saisisses le message de Dieu qui est à travers le plan de Jésus. Tu saisisses par la foi. C'est à ce moment-là que la nouvelle vie, la vie spirituelle commence. C'est à partir de ce moment-là que tu rentres dans le royaume de Dieu. Le même message, là, il n'y a pas rien qu'à un endroit, tu le vois à plusieurs passages, là. Pour rentrer, là, il y a des critères de base. Tu ne peux pas rentrer n'importe comment, tu ne peux pas passer par ta religion pour rentrer au ciel, ou rentrer dans le royaume de Dieu, on va appeler ça comme rentrer au ciel, là, pour être sauvé. Tu ne peux pas, par ta religion que tu as décidé, dire « je rentre au ciel ». Tu ne peux pas, par un autre Dieu, ou un autre Jésus, ou un autre Évangile, rentrer. Tu ne peux pas, par tes propres conceptions, ta propre philosophie, « ah, ben moi, je vois ça de même, tout le monde va être sauvé parce que j'ai décidé que tout le monde sera sauvé. » Ou c'est pas parce que tu vas avoir sorti de tes poches un gros portefeuille, avec bien de l'argent dedans, puis des friper des billes de mille pour essayer d'acheter ton salut. Ça se paye pas comme ça. Jésus a dit qu'il y a une seule porte, un seul chemin, c'est Jésus. Jésus l'a dit, je suis la porte. Il dit, tous ceux qui entrent par moi sont sauvés. Mais tous ceux qui essayent de passer en dehors de cette porte-là, c'est des voleurs, des brigands, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils cherchent d'autres moyens d'être sauvés que celui que Dieu a donné. Le plan qu'on voit dans les actes, comme dans Actes 2.38 puis dans Actes 3.19, là, c'est la même procédure. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se reçoit après ta repentance. L'autre passage, il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Avant que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, il faut que l'histoire de tes péchés soit réglée. On a toutes fait des péchés. Je sais qu'il y en a qui peuvent dire, « Ben moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, un péché. Je suis sans péché. » Déjà, en disant que vous n'avez pas, vous êtes déjà dans le péché. Vous êtes des menteurs. La Bible vous déclare menteur. La Bible, elle dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Fait que si tu n'admets pas tes péchés, tu ne peux pas demander le pardon à Jésus. Tu ne peux pas te mettre à croire que Jésus va pardonner tes péchés si tu n'admets pas que tu en as fait des péchés. Première étape, il faut que tu le réalises, ta position. Ta position, c'est que tu es lié par les ténèbres. Tu pratiques des péchés sans arrêt dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes agissements. Tu fais plein de choses qui déplaient à Dieu. À cause de ça, le diable te tient encore captif. Puis garde dans sa captivité, puis continue à agir dans ta vie, puis t'en fasses encore plus de péchés. Puis t'es entraîné par cet aveuglement-là jusqu'à temps que tu dis, « Hey, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me dit j'ai fait des péchés. C'est vrai que j'en ai des péchés, mais je tenais d'en faire. Je veux sortir de là. Je veux pas rester dans ce chemin-là. Je le sais que ça m'amène à la perdition. » Si tu commences à comprendre cela, tu es en train de saisir des vérités bibliques. Mais une autre vérité que tu dois comprendre, c'est que pour entrer, pour naître de nouveau, il faut premièrement que tu te repentes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi se repentir, c'est ça sous-entend le mot repentance, c'est un mot qu'on n'utilise plus bien aujourd'hui en français, mais ça sous-entend de comprendre ce que tu es en train de vivre, ça sous-entend que tu regrettes que ce que tu es en train de vivre, ça sous-entend que tu veux t'en détourner puis que tu décides de t'en détourner. C'est pas juste de le dire de ta bouche, « je me repens ». C'est qu'il y a un état d'esprit aussi que tu es en train de vivre, tu es tanné d'être là-dedans, puis tu crois que Jésus a tout payé pour toi, puis tu veux suivre Jésus, fait que là tu lui demandes au Seigneur, « Seigneur, je suis pécheur, je le reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux changer de vie. » Ben là, quand tu es en train de répondre à ça, tu es en train de répondre à l'appel que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta vie, parce que Dieu est en train de t'appeler. Il te fait comprendre les vérités pour que tu réalises. Faut que j'aille à Jésus pour être sauvé. À partir du moment que tu t'engages, « Oui, je viens à toi, je le crois, je te demande pardon. » Le Seigneur, quand il fait une promesse, Dieu, il n'est pas menteur. Puis Dieu est capable d'exaucer, de faire les choses selon ce qu'il a déclaré. Des fois, vous dites, « Ah, ben moi, il va-tu vraiment me pardonner si je viens à lui? » Mais si je vous demande, quand vous allez dans la machine à liqueur, et vous mettez $1 dans la machine, vous pesez sur le piton, avez-vous des doutes que la liqueur va sortir? Bon, majoritairement non, mais ça arrivait que la machine a mal fonctionné. Puis que la machine, t'es obligé de la brosser, puis que ta liqueur tombe. Puis ben, tu vas voir le gars, tu dis, hey, j'ai mis une pièce, la liqueur n'est pas tombée. C'est vrai que dans le monde humain, il y a plein de choses qui ne sont pas arrivées comme c'était supposé, puis ça a créé des doutes, des incertitudes dans notre cœur, dans notre vie. Puis on vit avec ces doutes-là, ces incertitudes. Des fois, tu es tellement habitué d'être installé sur le bon chemin de ton char que tu n'as même pas confiance que tu vas te rendre au travail le lundi matin parce que tu ne sais pas si ton char va finir par partir ce matin-là. Le doute s'est installé, mais il y avait des raisons qu'on ait des doutes. Je comprends ça. Mais si Dieu te dit que si tu te repens, tu vas être pardonné de tes péchés, puis tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est pas un homme, c'est pas une machine qui a dit ça, c'est le Créateur de toutes choses. Et quand tu confesses les choses en croyant que c'est Dieu qui le dit, c'est sûr que ça l'arrive. On n'a pas de raison de douter de Dieu. À partir d'un moment qu'une personne demande pardon à Dieu, elle est pardonnée. À partir du moment que la personne a mis sa foi que c'est Jésus qui la sauve, est pardonné. À partir du moment que tu te repens, tu dis, moi, je veux te suivre, Seigneur, t'es pardonné, puis te donne le Saint-Esprit. Puis quand une personne reçoit le Saint-Esprit, c'est ça, naître de l'Esprit, c'est ça, naître de nouveau, c'est ça qui te sort des ténèbres, puis qui t'amène dans le royaume de la lumière. T'es sauvé. Une nouvelle vie commence pour toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes s'est passées, voilà, toute chose est devenue nouvelle. Cette nouvelle vie, c'est pas toi qui fais une nouvelle vie, c'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui t'amène dans toutes sortes de choses nouvelles. Tu commences à réaliser tes péchés, tu commences à l'avouer au Seigneur, tu lui demandes de l'aide, les péchés tombent, tu as des délivrances dans ta vie est changée. Tu peux avoir plein de problèmes dans ta vie puis être encore rempli de bonheur et de joie d'être sauvé, de savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie puis qu'on attend juste le moment que Jésus vient nous chercher pour vivre éternellement avec lui. Gloire à Dieu! Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Moi, quand j'entends souvent parler des femmes, surtout, qui disent ça, ils vont assister à un accouchement à l'hôpital, puis mettons, c'est leur fille qui accouche, puis ils sont toutes contentes de dire, hey, « C'était-tu beau de voir cet enfant-là sortir? C'est-tu beau de voir la vie arriver? » C'est correct! C'est correct! C'est vrai que c'est beau! C'est Dieu qui a créé ça pour que ça marche de même! C'est sûr que c'est pas tout le temps facile quand ça arrive, mais c'est beau. Un nouvel être qui vient d'arriver au monde. C'est extrêmement beau. Ça s'est fait tout seul par la puissance de Dieu dans le ventre. C'est un mécanisme que Dieu a créé. Puis l'enfant sort, première chose qui se fait, il se met à crier, puis il se met à broyer. Mais c'est normal, c'est beau. Puis la mère, elle pense même plus à ses souffrances. Elle pense juste à la joie qu'elle a d'avoir un bébé dans ses bras. C'est Dieu qui a fait ça de même. Gloire à Dieu. Mais moi, je vais vous parler d'une autre naissance qui est encore, à mon avis, plus beau qu'une naissance. C'est d'assister à une nouvelle naissance. Quand tu es en train d'assister à une personne que tu connais, que tu sais que cette personne-là marche sans Dieu dans sa vie, puis tu commences à y parler de l'Évangile, puis à y parler du message de Jésus, là que tu vois cette personne-là réaliser les choses, puis que tu vois cette personne-là prier pour demander que le pardon s'installe dans sa vie, puis qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Puis là, tu vois, la vie commence à changer de jour en jour, tu vois, transformation, elle se met à parler du Seigneur, à être en prière, en train de prier pour ces choses, elle évangélise les gens partout, elle parle de sa foi. C'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est encore bien plus beau. C'est ce que je suis en train de vivre présentement en voyant mon père à l'hôpital. Pour ceux qui le savent pas, mon père, il y a 2 mois, il a eu une hémorragie cérébrale, il y a eu un caillot de sang gros comme une orange dans le cerveau. Puis là, il y a eu des dommages, le cerveau était écrasé. Mais toute sa vie, c'est pas des farces, ça fait 30 ans que je suis chrétien, toute sa vie, mon père, il a rejeté le message de l'Évangile. Toutes les fois qu'on y en parle, il fait ses signes, puis il fait toutes ses paroles qui vont avec, pour rejeter ce qu'on est en train de dire. Mais, il y a des hommes de Dieu, des personnes qui continuent à prier pour lui. Moi en premier, puis il y en a d'autres, mon frère prie, puis d'autres qui le connaissent. Quand il a eu son opération, la dernière fois, on l'a vu, on était ici quand je l'ai appris. Là, j'ai été chez mon père à Trois-Rivières, à l'hôpital, pour aller le voir. Ce soir-là, on s'était dit, on monte aller-retour, puis ça, on va juste voir comment ce qui est, puis on revient. Puis à Trois-Rivières, c'est quand même un bon bout, puis on n'a pas personne pour aller habiter dans ce bout-là. Fait que c'est un aller-retour. Fait qu'on va le voir, on le voit à 2h du matin, on le voit quand il sort de l'opération, on commence à lui parler. Blablabla. Bla, bla. Il avait de l'air conscient, mais il est en cours d'un vape de l'opération. Puis là, on s'en va, là, puis c'est fini, il s'en est sorti. On décide de s'en aller, mais ma hausse de transmission a pété, puis la transmission s'est répandue dans la rue. Mon truck avançait plus. Fait que là, on était pris pour coucher à Trois-Rivières. On couche à Trois-Rivières. Le lendemain, mon frère, il me dit, on va te voir mon père avant de partir. Il dit, je me sens que je sens qu'il faut qu'on y aille. Ouais, on va y aller. On décide, on retourne voir le père. On a jasé avec, il était complètement lucide. Puis là, on lui a dit, le médecin l'a dit, que tu as été réchappé de la mort. Puis là, on lui a dit, Dieu, il t'a donné une autre chance. Tu es en cours là, dans ton lit, puis qu'il te donne une chance, puis il t'appelle à venir au salut. Puis il faut que tu croies en Jésus pour être pardonné de tes péchés. Puis on lui a expliqué les affaires. Il a accepté de faire la prière avec nous autres. Là, j'ai senti la paix de Dieu quand on a prié. Pour moi, ça m'a confirmé que Dieu était là. On s'en va. Dans la semaine, quand on est retourné, là, il était confus au maximum. Là, son état va empirer. Puis il fallait des semaines qu'on y allait, puis il était perdu, puis il délirait, puis il disait toutes sortes de choses. Puis là, il a encore été la semaine passée. Puis j'emmène mon frère, parce que mon frère aussi aime ça parler du Seigneur. Là, on en revient en cours à parler du Seigneur, puis mon père, il avait aucune résistance d'écouter ce qu'on avait à dire. Il est en cours conscient. Puis là, on lui a refait faire en cours la prière, parce qu'en même temps, ça l'apprend au monde, il commence à s'adresser à Dieu. On lui a donné le Nouveau Testament, il a commencé tout de suite à lire la Bible, à lire le Nouveau Testament. Puis là, il a dit, ça fait 2 mois, puis à l'hôpital, il a dit, là, j'aurais dû l'avoir un peu avant, au moins, il aurait eu de quoi à faire. Ça, il n'avait rien à faire pendant 2 mois à l'hôpital. Là, c'est comme si, moi, je dis pas que je doutais. Je doutais pas. Pourquoi? Parce que Dieu exauce les prières. Faut jamais oublier ça, là. Pendant qu'on a nos enfants qui sont dans des vies qui n'est pas la vie du Seigneur, pour dire ça bien poliment, pour pas dire qu'ils sont dans une vie de débauche, dans une vie de perdition, Mais ils ont besoin d'entendre, on prie pour eux autres, puis des fois on est découragé, puis on pense que Dieu il a tout oublié la situation, puis qu'ils sont perdus, puis on n'a pas d'espérance. Non! Chassez ça, cette idée-là, dans le nom de Jésus.
Amen.
Dieu exauce les prières. Dieu répond aux prières. Dieu nous le dit à plein de passages que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Croyez que si vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui vous entoure, Dieu va répondre en son temps. Soyez pas découragés, ça lui appartient, ça. C'est lui qui va le faire au moment qui va être le meilleur que lui a choisi. Puis vous allez assister à la beauté de voir une nouvelle naissance. C'est ça qui est le plus beau, de voir une personne, de voir sa vie commencer à changer par la puissance du Saint-Esprit. Moi, gloire à Dieu, je t'ai émerveillé. C'est quelque chose. Je continue à vous parler de cette idée-là, de notre nouvelle position en Jésus quand on est né de nouveau. Il faut le comprendre. Parce que l'ennemi, ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire douter de ce que Dieu a dit dans sa parole, puis essayer de vous amener loin de ce que vous avez reçu. Rappelons-nous que c'est déjà accompli, qu'on est né de nouveau, on est en communion avec le Saint-Esprit, on est dans le royaume de la lumière. Suite à notre introduction dans le royaume de la lumière, parce qu'il nous a déracinés des ténèbres, en a la lumière, nous pouvons demeurer dans la lumière. C'est une chose que tu as déjà, que tu peux demeurer. Pense pas que tu l'as quitté, ce royaume-là, puis il n'y a plus de moyen de revenir. Non, c'est pas ça. Dieu, quand on parle de marcher dans la lumière, c'est demeurer en communion avec ce Dieu-là. Marcher dans la lumière, c'est marcher en communion avec ce Dieu-là. T'es dans ce monde, qui est le monde des ténèbres, mais quand je demeure connecté avec ce Dieu-là, je demeure dans la lumière. Je suis un habitant du royaume de la lumière, les deux pieds dans le royaume des ténèbres, mais demeurant en communion avec ce Dieu-là, je marche dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Puis quand il y a d'autres frères et sœurs qui marchent dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres, connectés par le même esprit qui nous alimente. Nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. L'ennemi ne peut pas nous enlever ce qu'on a reçu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Mais avant, je vais vous lire dans 1 Jean 1,9, là, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Croyez-les! Parce que tu es un habitant de la lumière, tu as été déraciné, tu es maintenant le sceau de Dieu sur ton front, tu es la propriété privée de Dieu. Tu peux demeurer dans la lumière, être en communion avec Dieu, puis que le sang de Jésus te purifie. Gloire à Dieu! Si tu en fais des péchés, confesse-les à Dieu, puis Dieu les lave automatiquement, il te pardonne, il te purifie. Et pour dire comment est-ce que l'ennemi ne peut pas vous enlever ce que vous avez reçu, dans Romains 8:33, il dit, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Qui va les accuser? C'est Dieu qui les justifie. On a été justifiés par le sang de Jésus. On a été déclarés des justes par le sang de Jésus. Par notre foi, on a obtenu une position que le diable ne peut plus rien faire. Il n'y a même pas un démon, même Satan lui-même, ou même un homme, ne peut aller plaider contre Dieu, contre nous. C'est Dieu qui est le juge, c'est lui qui a décidé de nous justifier, puis personne ne peut rien faire contre. Qui les condamnera? Christ, il est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui va nous condamner? Dieu lui-même, il prie pour nous autres, puis il agit dans notre vie pour nous faire avancer. Personne ne peut vous enlever ça. Qui va me séparer de l'amour de Christ? Ça va-tu être la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi, c'est à cause de Jésus qu'on nous met à mort tout le jour, puis qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Là, il nous pose la question, il nous confesse que là, c'est fait, il n'y a personne qui peut t'en enlever. Mais là, il dit, c'est-tu tes épreuves de ta vie qui vont t'en séparer? Parce qu'il faut se poser des questions. Le diable, s'il n'est pas capable lui-même de venir et de plaider contre toi et t'accuser à cause de tes péchés, Christ a réglé ta dette de péché et il prie pour toi. Il va essayer de t'envoyer des tribulations, des épreuves, des persécutions. Il dit, des tribulations, de l'angoisse. Qui a vécu d'angoisse? Jésus lui-même en a vécu des angoisses dans le jardin. Quand tu vis des moments difficiles, tu es angoissé, mais c'est-tu ça qui va te faire séparer de Jésus? Ou des persécutions? Ou parce que tu n'as rien à manger, tu n'as rien à boire chez vous, puis là tu vas commencer à te plaindre, puis tu vas décider de te séparer de l'amour de Dieu, puis tu vas revirer de bord? Ou le péril ou l'épée, parce que tu peux vivre des moments extrêmement difficiles. Ici, on n'en vit pas bien, bien, mais dans d'autres pays, ils se font jeter en prison, puis il y en a qui se font tuer à cause qu'ils sont chrétiens. C'est tout ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Il faut arriver à être dans... Tu sais, quand je dis qu'il faut saisir notre position, bien là, je vais vous expliquer la position de Paul. Comment est-ce que lui, Paul, prenait ça, cette idée-là? Paul, au verset 37, il dit, « Mais dans toutes ces choses... » C'est Paul qui parle. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, c'est Paul qui est en train de dire ça. Paul, il avait cette assurance-là que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, les démons, puis tout l'acharnement du royaume des ténèbres, ni les hauteurs, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, il avait cette assurance-là dans cette nouvelle position en Jésus-Christ. Voyez-vous, vous, en tant que frère et sœur, si je vous pose la question, qu'est-ce qui va vous séparer de Jésus? C'est-tu les tribulations, l'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Où vous êtes capable de dire comme Paul, « J'ai l'assurance que rien dans ce monde va me séparer. » Avez-vous cette foi-là de vous accrocher, puis de persévérer jusqu'à la fin dans cette foi-là, puis de ne pas vous laisser bourrer de mentir par l'ennemi? « Ah, t'es tombé dans un péché, Dieu t'aime plus. » T'as pas payé ta dîme dimanche, Dieu t'aime plus. On l'a dit à matin, c'est pas parce que Dieu t'aimait plus. C'est pas parce que vous avez fait des gaffes dans la vie chrétienne, ou même vous avez eu des relâchements, puis que peut-être vous viviez des découragements, puis peut-être vous avez dit, « Oh ben moi, je suis tanné, je suis plus capable. » Peut-être, vous avez dit ça. Mais croyez qu'à chaque fois que vous confessez votre état devant Dieu, il vous pardonne, le sang de Jésus vous purifie, puis vous demeurez mutuellement en communion, puis rien ne peut vous enlever ça. Rien de la puissance des ténèbres ne peut vous enlever ça. La semence incorruptible de Dieu. Rien ni aucune créature, laissez pas le diable vous mettre des mentries dans la tête. Rien peut vous enlever. Oh, toi, t'es pas un vrai chrétien, t'es un crétin. Puis là, il va commencer à vous descendre. Dans le but de quoi? Juste de vous décourager, puis vous lâchiez tout. Mais prenez pas cette position-là, prenez. Je suis un plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Jésus a tout accompli. Je suis son enfant, je lui appartiens. Je persévère par la foi. Puis on est déjà dans la victoire. Hallelujah! Nous avons tout pleinement en lui. Je n'irai pas dans mon autre point, parce que là, ça va durer plusieurs semaines, cette étude-là, mais c'est pour ça que je parle de ce sujet-là quand on parle du combat spirituel. C'est vrai, prendre autorité dans le nom de Jésus, c'est vrai à la puissance. Il y a tout est vrai. Mais le point qu'on se concentre aujourd'hui de réaliser notre nouvelle position en Jésus afin de ne pas se laisser ébranler par les dominations, les autorités, ces pouvoirs-là, ces puissances démoniaques qui nous assaillent tous les jours. La Bible a dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est à vous, il ne peut pas vous l'enlever. Qui va vous accuser? C'est Dieu qui justifie et vous a déclaré juste. Gardez cette foi-là. Marchez dans la foi. Persévérez dans la foi. Laissez-vous pas voler ce que Dieu vous a déjà donné. Il y a un amen à cela? On va faire une prière ensemble. Puis j'invite tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, puis de saisir ce salut-là pour être né de nouveau, puis pour être transporté des ténèbres à la lumière. Mais il y a un genre de prière qu'on peut faire. Une prière qui fait qu'on reconnaît notre état, on reconnaît ce que Jésus nous offre, puis qu'on le saisit par la foi en voulant changer de vie, puis là, le Saint-Esprit va venir dans votre vie. Votre vie va être changée. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je me présente devant toi. Et en te confessant que je suis un pécheur, je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes mes transgressions, ma rébellion. Mais je reconnais que tu es mort sur la croix, v'là 2000 ans, que tu as payé, tu as versé ton sang à la croix, puis tu as accepté de mourir à ma place pour que je reçoive ce pardon. Mais Seigneur, je crois, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je te reçois comme mon Seigneur. Je veux te suivre, je veux te servir. Je te demande de me guider par ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Je veux entrer dans ton royaume. Merci Seigneur de me sauver. Merci de pardonner mes péchés. Merci de me donner ton Saint-Esprit. Merci d'avoir inscrit mon nom dans le livre de vie. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, puis vous le croyez de tout votre cœur en le confessant de votre bouche, tu as déjà reçu la nouvelle naissance. Dieu ment pas, sa parole est vraie. Je vous invite à persévérer dans la foi, puis rejeter ce que l'ennemi essaie de mettre dans vos vies, des doutes, des pensées pour vous ébranler. Rejetez tout ça. Ça fait partie du combat spirituel. Résistez à tout ça, puis rejetez-les dans le nom de Jésus, tous ces mensonges-là. Puis vous allez marcher de victoire en victoire, puis l'ennemi n'aura plus aucune emprise dans votre vie, dans le nom de Jésus.